Huitième journée de top 12 après la poule 1. On va faire la deuxième. Ça commence à se décanter. Vous allez voir que, comme souvent, j'avais annoncé ce qui allait se passer. Vous allez voir ça tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Salut Benoît, comment ça va?
Salut Ewan, bonjour à tous. Je sais pas si je dois vraiment répondre, mais bon, on est là, on va tourner le top 12.
Le top 12, des fois c'est très bien, des fois c'est moins passionnant que le circuit international, mais là pour le coup, bon, il y a eu des rencontres, il y a eu des rencontres intéressantes, alors on va plonger tout de suite dedans. Avec la rencontre entre Cholet et Mulhouse. Mulhouse qui, pour rappel, restait sur 2 victoires 5-3 un peu à l'arrache. Et contre Cholet, ça a plutôt bien commencé avec la victoire en double homme de Tom Jiquel et Kenji Lovang, 21-19, 21-13 contre les frères Corvée. Mais Cholet a tout de suite réagi avec le double dame, la victoire de Shuwei et Gaël Mahulette contre Margot Lambert et Camille Poignante. 21-23, 21-15, 21-8. Les simples hommes, donc le premier a été gagné par Mohamed Iqbal pour Mulhouse, Arnaud Merclet toujours absent car blessé, on le rappelle, contre Martin Oisan, 21-11, 21-17. Simple homme 2 également remporté par Mulhouse avec la victoire de Raphaël Gavois contre Renaud Arnoux. Lui, ça fait un bail qu'on l'avait pas vu en top 12. 21-14, 21-13, enfin, je veux dire dans l'équipe 1 de Cholet. Eulalisser et Shuwei qui gagnent les deux simples dames pour Cholet cette fois. La première a battu Marine Lassis, 21-17, 26-28, 21-9. La seconde a battu la joueuse indonésienne Irdina Nora Mirza, 14-21, 21-10, 21-18. Sami Corvée et Gaël Mahulette qui remportent un mixte contre la paire Iqbal-Lambert, 21-17, 12-21, 22-20. Et Corvée-Serre qui perd contre Jiquel Poignante, 21-12, 21-17. Et Benoît, ça fait quoi? Ça fait 4 partout. Donc voilà, comme je disais, Benoît, Mulhouse, après 2 victoires un peu à l'arrache cette fois, c'est pas passé contre Cholet. Alors on vous cache pas que c'est pas dramatique côté Mulhouse. Cholet, plutôt une belle opération, même si maintenant c'est peut-être un peu trop tard. Qu'est-ce que t'en penses? On a vu des vrais matchs là pour le coup.
On a vu des vrais matchs. Globalement, quand même, j'en pense que. Tu vas me dire peut-être que tu vas me trouver dur, mais Cholet s'en sort particulièrement bien. Alors, quand je dis ça, c'est parce que Mulhouse avait décidé qu'il ne gagnerait aucun troisième set samedi.
C'est ça, 4 victoires de Cholet, 4 fois en 3 sets, 4 victoires de Mulhouse, 4 fois en 2 sets. Donc effectivement, difficile de voir Cholet pouvoir avoir mieux, alors que Mulhouse, effectivement, après... Il y a eu deux troisième sets où tu prends 22-20, 21-18. Il y en a deux autres où tu prends 9 et 8. Donc bon, à la rigueur, effectivement, je suis d'accord avec toi. S'il y a des regrets, c'est plus sur ce simple dame 1 et surtout sur ce mixte 2.
Tout à fait. Après, globalement, on est quand même d'accord sur le fait, tu l'as bien dit, que ça ne changera pas. À mon avis, hein, peut-être ça peut tout changer pour Mulhouse. Je n'y crois pas. Surtout qu'Arnaud Merclet est quand même sur la voie du retour maintenant. Je suis un peu frustré quand même parce que Lambert Poignante, on a deux spécialistes du double qui perdent contre deux spécialistes internationaux du double, Shuwei et Gaël Mahulette. Gaël Mahulette, c'est bien connu, hein. On les connaît très très bien pour leur paire à l'international.
Je suis assez d'accord, c'est vrai que je suis passé vite sur ce double dame. Je suis passé vite sur ce double dame, mais franchement, je suis totalement d'accord avec
J'en
toi.
J'en veux moins à Irdina Nora Mirza de perdre contre Shuwei en simple, par exemple, tu vois.
Ah bah oui, voilà. Oui, moi aussi.
Mais un peu saoulé de cette défaite, surtout même dans le contenu. Enfin, dans le troisième, j'étais devant. Je trouve que tu peux pas prendre la sauce comme ça contre deux joueuses de simple qui jouent beaucoup en double. Hein, mais c'est pas des joueuses de double, encore une fois. Donc Cholet a vraiment maximisé ses chances. Maintenant, je souhaite quand même pas que Mulhouse reproduise ce genre de perf en playoff, notamment parce que je pense qu'il y a des joueurs pour vraiment aller très très loin, même si là c'était une équipe réduite, hein, pas d'Arnaud Merclet qui est capable de jouer sur trois tableaux. Sofia Grönvig, on a
pas de Jessica Pugh,
ça change quand même pas beaucoup la donne, et pas de Sofia Grönvig, on a pas trop de news. Je sais pas, elle communique peu sur ses réseaux, ouais, donc on sait pas.
Elle est jamais là.
Elle est jamais là. Bon, a priori Mulhouse, ils sont quand même en mode gestion là depuis quelques rencontres, et ça devrait suffire. Mais j'ai hâte de voir leur équipe au complet qui pourront nous proposer quand même, peut-être avant les playoffs quand même, pour voir ce que ça peut donner.
Oui, c'est clair, puisque là, donc, ils restaient sur deux rencontres où ils gagnent un peu à... ils gagnent contre Strasbourg, ils gagnent contre le RCF, ils perdent contre Arras. Et ils gagnent contre Oulin, mais un peu à l'arrache. Et là, cette fois, c'est pas passé. La phase retour, elle est clairement pas excellente hein, côté Mulhouse, même si tu prends des points. Et effectivement, c'est forcément dû au fait que t'as des absents, notamment Merclé et Pugh. Et oui, c'est vrai que là, contre une équipe de Cholet qui a pour le coup maximisé le max du max du max de ce qu'elle pouvait obtenir, c'est passé, même si... je suis assez étonné, Benoît, du score pris par les corvées, par exemple.
Ouais.
Ils étaient malades la fois dernière. Alors
ouais,
enfin
là, c'était pas le cas. Quand tu vois le niveau des deux en mixte, notamment, non, c'était pas le cas là. Mais après, Kenji Lovang, dans un bon jour, je sais qu'on lui tape souvent dessus. Et je vais pas changer d'avis, il a raison, hein, à mon avis. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je l'ai pas gratuit. C'est quand même un vrai joueur quand il est dans un bon jour. Et puis à côté, tu joues avec Tom Jikel. Hein, donc, moi, le score me surprend plus que le résultat.
Oui, moi aussi, c'est exactement ce que je voulais dire. Ouais. On reviendra après sur... pour Mulhouse, elle aura pas trop d'effet, mais on reviendra sur Cholet, notamment quand on parlera du classement. Là, on va parler de la deuxième rencontre, le RCF qui recevait Arras.
I'm the bad guy.
Take that.
Alors, cette rencontre, elle était importante aussi, hein, puisque Arras avait perdu la semaine dernière contre Strasbourg, alors que côté RCF, on avait gagné à Cholet. Là, ça a bien commencé pour Arras, puisque Chloé Birch a battu Vimal Aéreo, logiquement, facilement, 21-10, 21-12, mais en double dame, Georgina Helen Blend et Anne Tran ont battu Marie Batomen et Émilie Lefel, 21-19, 21-12. Est-ce que Arras peut se satisfaire de manger ça sur un tel match? Tu me diras ça juste après, Benoît. Toby Penty a battu Valentin Singer en simple 21-16 et 21-15. Et Léo Rossi et Ethan Van Luen ont battu Quentin Ronger et Thomas Vallée en double homme. 21-12, 21-14. Benoît, qu'est-ce que ça t'inspire ces quatre premiers matchs et notamment le deuxième, donc la victoire du RCF que j'ai relevé?
Sur la globalité de la rencontre, on verra que ça change rien. Maintenant, quand tu vois le niveau affiché par les deux, Marie Batomen et Émilie Lefel, quand elles n'ont pas joué ensemble, donc plus tard dans leur rencontre, il y a de quoi être frustré. Enfin, je veux dire, les deux n'étaient pas dans une journée catastrophique, elles ont montré vraiment des belles choses, donc je pense qu'il y a de quoi se dire quand même que tu peux regretter de perdre ce double dame, oui.
Voilà, exactement.
Je pense que tu es d'accord avec moi.
Alors, on va poursuivre. Oui, Léo Van Gisel qui bat Matteo Martinez en simple homme 2, 21-18, 21-13. Marie Batomen qui bat Georgina Helen Blend en simple dame 1, 21-17, 17-21, 21-15. Quentin Ronger et Anne Tran ont gagné en mix contre la paire britannique Birch Van Leeuwen, 21-14, 23-21. Et la paire Rossi-Lefel en mixte 2 a battu Thomas Vallée, Vimala Aéreo, 21-11, 16-21, 21-15. Benoît, on disait justement dans un épisode qui est sorti il y a une semaine seulement que souvent Anne Tran faisait le boulot en top 12 et que voilà, elle était quasiment irréprochable, même irréprochable avec le RCF. Là, malheureusement, elle était beaucoup trop seule pour que le RCF puisse espérer mieux.
Mais clairement, surtout qu'en général, Vimal Aéreo remporte des matchs, pas les simples, hein, c'est pas de ça dont je parle. Sauf que là ils l'ont aligné en simple parce que pas le choix, j'imagine. On en parlait en off, on n'était pas forcément en désaccord mais pas forcément d'accord non plus. Moi je sais pas si le RCF avait encore la place pour aller en playoff, mais je pense que si tu voulais te donner cette chance là il fallait faire venir Jenjira Stadelman, surtout que c'est plus facile à dire après, mais qui a gagné deux matchs en Ouganda avant de se faire sortir, je vais le dire, lamentablement, au troisième tour en quart. Je pense que après coup, c'est facile évidemment de le dire, mais c'est un peu regrettable de pas l'avoir fait venir. Surtout que je pense que ça libère quand même au moins une ou deux victoires. Ça change beaucoup de choses. Donc effectivement, elle était trop seule en train pour espérer quoi que ce soit.
Voilà. Donc oui, on parlait beaucoup. Pour moi, c'est en tournant, c'est cette absence donc de la joueuse suisse Gengira Stadelmann qui empêche le RCF de pouvoir espérer beaucoup mieux. Et côté Arras, on a fait le travail. Hein, on perd les deux matchs face à Antran, mais le reste, on est plutôt solide, même quand c'est un peu compliqué, notamment ce simple dame 1 et ce mixte 2. Benoît, honnêtement, cette rencontre, ce qu'elle va donner au classement, je trouve ça plus intéressant à analyser ça que ce qui s'est réellement passé, parce qu'au niveau des matchs, bon, y a pas grand-chose à dire.
Ouais, le niveau était, c'est sûr que quand on en a parlé dans l'autre pool, mais quand on a vu Chambly, notamment Chambly Fos, le niveau de cette rencontre, il est pas incroyable. Je voudrais juste avoir ton ressenti, mais j'ai l'impression qu'on a tiré un trait sur les Anglais, enfin les retraités, quand même à Arras.
Ah c'est sûr que Adcock et Langridge, ils ont été
remerciés. On est d'accord, hein.
En tout cas, ils sont plus là. Langridge joue plus depuis un moment, et même Adcock est pas là sur les, je sais pas, 5 dernières rencontres au moins. Mm-hmm. Je pense que quand Van Leeuwen est là, quoi.
Ça va mieux. On gagne des matchs.
Oui, c'est clair. Mais même si c'est une équipe, je continue de le penser, c'est une équipe pour moi qui a le niveau moyen du top 12. L'équipe d'Arras là, qui est leur équipe type, pour moi, tu vois, c'est sur les 12 équipes, ça doit être quoi, le 7e effectif, tu vois, 6e. Je pense qu'ils vont aller en play-off, mais que ce sera bien payé.
Oui, difficile de te contredire.
Tout à fait. Difficile de me contredire tout le temps, vu que souvent ce que je dis est très très sensé. C'est ça l'avantage. Allez, dernière rencontre, Strasbourg ou Lens.
Aimez-vous le badminton?
Ah non.
Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne.
Victoire obligatoire pour Strasbourg face à une équipe oulinoise qui avait fait plutôt une bonne perf il y a deux semaines en allant en perdant contre Mulhouse, mais en prenant un bonus. Alex Lanier et Malia O'Haro ont battu Joris Grosjean et Stacy Guérin en mixte 2, 21-14, 21-21-16. Kalou Meming et Sharon Bauer ont gagné le premier contre Grégoire Deschamps et Clémence Gaudreau, 21-17, 21-14, 21-17. Simon Baron-Vézilier, souvent lui qui gagne les matchs pour Oulin, il a récidivé. Là, c'était compliqué contre Tino Daoudal en simple homme 2. Victoire à l'arraché, mais victoire quand même 22-20, 21-19. Rosie Pancassari n'a pas laissé beaucoup de chance par contre à Delphine Lansac en lui mettant un petit 21-17, 21-6. Ça a déroulé aussi pour Malia O'Haro dans le simple dame 2. Victoire face à Stacy Guérin, 21-10, 21-10. Alex Lanier a battu Grégoire Deschamps 21-11, 21-19. Tino Daoudal et Kalou Meming, paire inédite je pense, ont battu Corentin Didier et Joris Grosjean 21-12, 19-21, 21-12. Et pour finir, Sharon Bauer et Rosie Pancassari ont battu Clémence Gaudreau et Delphine Lansac 21-14, 21-12. Benoît, on avait plutôt vu venir ce 7-1 en faveur de Strasbourg. Je crois même que toi et moi, on avait... c'est vrai que j'avais dit 6-2 parce que je pensais que Delphine Lansac pouvait faire mieux, mais en gros, on savait que Simon Baron-Vézilier pouvait gagner un match, mais que pour le reste, ce serait très compliqué pour Roulin. Et manifestement, on s'est pas trompé. Strasbourg aurait même pu choper le 8-0 à pas grand-chose, quoi.
Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter, t'as tout dit. Simon Baron-Vézilier, je crois que c'est déjà lui qui avait évité le 8-0 à l'aller.
C'est ça, contre le même adversaire d'ailleurs, je crois.
Exactement. Delphine Lansac, je m'attendais pas à ce que j'ai pas vu le match pour tout vous dire, parce que malheureusement on peut pas regarder 6 rencontres à la fois. Mais j'étais plus surpris du résultat quand même, parce que il me semble qu'elle l'avait déjà battu en top 12. Peut-être j'ai une bêtise là, mais bon.
En tout cas, je corrige ce que j'ai dit la dernière fois. Simon Baron-Vézilier avait battu Titouan ou Haro.
Ah, Titouan, ok.
Mais c'était effectivement déjà lui qui avait remporté le seul point de son équipe. Et mine de rien, Simon Baron-Vézilier, il en gagne des matchs cette saison dans une équipe en difficulté.
Ouais, après en simple homme 2, je pense que on verra ce qui se passe l'année prochaine pour lui. Mais il a pas grand chose à envier à beaucoup de simple homme 2 de top 12 dans les autres équipes. Hein. Dans cette équipe d'Oulin, il y a pas beaucoup de joueurs, faut dire les choses, qui ont le niveau de jouer en top 12, mais il y en a quelques-uns qui, à mon avis, pourraient être des bonnes pioches pour certaines équipes.
Voilà.
Dont Simon Baron-Vézilier, effectivement.
Voilà. Et Tanina Mameri, qui fait partie aussi des meilleurs joueurs de cet effectif, et joueuse qui n'était pas présente cette fois. Donc voilà, score, on va pas passer des heures là-dessus, un score plutôt attendu, cette victoire 7-1 de Strasbourg. On va plutôt s'apesantir sur le classement.
Look at this, look at that.
Alors, le classement, Mulhouse toujours en tête malgré ce nul, ils avaient quand même de la marge avec 35 points, 2 points devant Arras 33, derrière on a Strasbourg à 29, Cholet à 25 et le RCF à 24 avec Oulin qui ferme la marche avec 9 points. Benoît, là cette poule elle a longtemps été très serrée mais là ça s'est quand même bien bien décanté hein, parce que Arras qui a 4 points d'avance sur Strasbourg qui en a lui-même 4 sur Cholet. Je pense que ce top 3 dans cet ordre, ça devrait, même si c'est pas mathématiquement fait, ça devrait rester à peu près comme ça. On est loin de ce qu'on avait il y a deux journées où le cinquième pouvait encore espérer finir deuxième. Quoi. Maintenant, pour le RCF et pour Cholet, je pense que c'est terminé, c'est sûr même.
Ouais, même pour Strasbourg, hein, ça va être difficile, sachant que Strasbourg il leur reste notamment Mulhouse, mais Arras a quand même... Va quand même jouer Cholet à la prochaine journée. À voir, hein, peut-être que je me trompe, mais normalement Arras devrait faire le job.
Oui, réception de Cholet et déplacement à Mulhouse qui sera pour le coup beaucoup plus difficile. Mais le boulot, il faut le faire la rencontre prochaine pour Arras.
Ouais, on est d'accord.
Alors les pronostics, c'est tout de suite. Oh my God! Benoît, un petit mot sur le classement des pronos. On va pas vous refaire tout ce qu'on a déjà fait dans la poule 1, mais rapidement, comme tu le disais, une rencontre, enfin une journée où il était difficile de marquer des points. En tout cas.
Ouais, peu de pronostiqueurs, de parieurs fous ont mis plus de 4 points. Et en fait, même en ayant plus d'infos que nous, en pronostiquant sur les derniers jours, c'était pas aussi simple que ça de voir venir. Il y a eu quand même des surprises, des résultats inattendus. C'était pas facile de les voir et ça a un peu bouleversé le classement quand même. C'est une des premières journées là où le classement établi a un peu bougé.
Voilà, et on le dit pas tout le temps, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, puisque c'est là que vous aurez le classement. Benoît, donc les pronostics de cette 9e journée qui aura lieu le 18 mars et qui sera donc positionnée le même jour que les demi-finales du All England, donc après l'Allemagne et juste avant la Suisse, donc en pleine tournée européenne, mais comme on l'a dit dans la première poule, peu de joueurs de top 12 qui seront engagés très longtemps au All England normalement, sauf grosse surprise. On devrait avoir des effectifs normalement assez complets, mais bon, maintenant j'ose plus rien dire, puisque chaque fois qu'on dit ça, au final on se retrouve avec des N3. Allez, Strasbourg qui reçoit Mulhouse, un match, une rencontre qui sent bon l'Est de la France, Benoît, mais moi j'aimerais savoir surtout ce que tu sens comme score final.
4 partout. 5-3. Non, je sais plus, putain, je sais plus. Dis-moi, ça va m'aider, je sais pas.
T'es drôle, moi.
Aide-moi.
J'en sais rien. Attends. Allez, 5-3 Strasbourg.
Ok, 4 partout. Je veux pas avoir le même que toi. Allez, 4 partout.
J'hésitais avec le 4 partout aussi, mais la victoire de Strasbourg, qui serait un gros coup quand même, je peux l'avoir.
Ouais.
Si Mulhouse reste sur les bases de ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant...
Potentiel retour d'Arnaud Merclet, potentielle présence de Jessica Pugh en pleine tournée européenne, attention quand même à Mulhouse. Peut-être qu'ils vont pas venir avec une équipe non plus archi-remaniée, comme on est en train de le sous-entendre.
Ouais, après, Arnaud Merclet, s'il revient, il a intérêt d'être en forme, puisqu'il va se taper Alex Lanier.
Oui, c'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus.
Donc ce match, il sera pas gagné. Hein.
Non, mais 4-4, c'est bien. 5-3 aussi, ça, c'est un truc assez serré.
Arras Cholet, donc Arras qui peut se mettre quasiment définitivement à l'abri, puisque si Strasbourg ne fait pas l'exploit, parce que je rappellerais quand même ça un exploit contre Mulhouse, et que eux gagnent même juste 5-3, tu vois, c'est finito, ça part en playoff du côté du BCA.
4 partout.
Ok.
Il y a eu 5-3
Benoît,
à l'aller.
Ouais, bah il va encore avoir 5-3. Ton manque de foi dans Arras va précipiter ta chute au classement des pronos.
Pardon, mais tu pronostiques le même 5-3 qu'à l'aller parce que tu sais pour qui il y a eu 5-3 à l'aller ou pas? Je crois que tu sais pas.
Il y avait pour Cholet.
Eh oui.
Il y avait eu défaite d'Arras.
Ah,
mais
oui.
Là, il y aura victoire
d'accord.
d'Arras 5-3.
Okay.
Là.
Ah, oui, ok. D'accord.
Et la dernière rencontre, Oulin qui reçoit le RCF, une rencontre qui tout simplement n'aura que très peu d'importance au classement. Mais je veux quand même ton score, puisqu'il peut avoir une importance au classement des pronostics.
6-2.
6-2. Allez, 7-1.
Ouais, je vois pas comment ils peuvent remporter 7 matchs, le RCF.
Je vois pas comment Oulin peut en gagner 2, surtout.
Ah bon? Ok.
Ouais.
Je sais pas. Pour moi, Valentin Zinger, il gagnera pas déjà.
Non, mais ça va encore
pour
être
moi,
un
le simple homme 2, le simple homme 2, si t'as Deschamps, Baron Vézilier, tu t'en remportes 2. Potentiellement, s'il y a Lansac, tu peux gagner un simple.
Contre Chouaï, je crois pas.
Non.
Contre
ça dépend qui tu veux amener.
Contre Stadelman, je.
Ah, s'il y a Stadelman, ouais, ça va être compliqué, mais je reste 6-2. Je pense que ça va faire comme à l'aller.
Ouais, moi je reste 7-1, mais je suis très peu sûr.
Ok.
Là, pour le coup, autant il y a des journées où je sors confiant des pronos que je viens de faire, autant là, que ce soit dans la poule 1, mais surtout dans celle-là, j'y crois malheureusement peu, et je commence à me dire que je vais peut-être finir derrière toi au classement, je commence à me préparer psychologiquement, mais ça me plaît pas du tout. Benoît, je vais pas te libérer tout de suite, j'aimerais avant que tu nous parles on a fini sur le top 12, j'aimerais que tu nous parles vite fait de l'épisode qu'on va sortir lundi prochain, c'est-à-dire lundi 6 mars, qui sera, puisqu'on a un petit creux avec le calendrier international, qu'est-ce que ça va être, Benoît? Dis-moi tout.
Ça va être une interview de Mathieu Thomas, que certains connaissent. On a un peu teasé déjà quand l'aurait en interview. C'est une interview très courte qui maintenant date de quelques semaines, puisqu'on est allé le voir au championnat de France para-badminton. Donc voilà, je vous dis qui c'est rapidement. C'est un parabadiste de haut niveau, donc médaillé mondial, top 3 mondial, si je dis pas de bêtises, il me corrigera en double homme, qui était là, du coup, là au moment où on tourne l'épisode de top 12 sur le tout début de la qualif olympique en Espagne. Je pense que ça aurait pu se passer mieux pour lui, mais voilà, globalement, j'en ai dit quelques mots. On en a aussi parlé, je pense que c'est le moment que tu nous fasses la promo, on en a parlé sur le Discord qu'on a créé, peut-être le moment de faire une petite promo de ça aussi, Ewan.
Oui, c'est vrai. Non, juste pour finir sur Mathieu Thomas, oui. Sur Mathieu Thomas, interview, je trouve très intéressant parce que il a vraiment, vous allez voir si vous écoutez l'interview, il a vraiment un profil très très particulier. Mathieu Thomas, déjà parlé par Abad, nous on le fait pas énorme, surtout parce que nous et surtout moi, j'ai une connaissance très limitée de ce milieu-là. Donc limite, je trouve ça plus intéressant. Que ce soit eux qui en parlent directement, et c'est notamment ce qu'il va faire, et je vous conseille de le suivre sur les réseaux sociaux, Mathieu Thomas, puisque c'est un mec qui attend pas que les sponsors viennent le chercher, il se bouge pour les avoir. Enfin, c'est toi qui connais mieux.
Je croyais t'allais dire que la Fédé l'aide, pardon, c'est pas...
Il se bouge pour les avoir en communiquant notamment beaucoup, je répondrai même pas à ce que tu veux dire. Donc c'est très intéressant et je suis content qu'on puisse vous proposer ça. Et ensuite, on enchaînera donc sur une tournée européenne qui s'annonce très sympa avec donc German, All England, Suisse, Spain Masters et Orléans. Mais ça, c'est dans longtemps encore. Oui, le Discord, rapidement. On a créé un Discord pour, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est un peu une sorte de forum, en fait, où vous pouvez venir, donc, qui est exclusivement dédié aux auditeurs de 21 Shuttle, où, en fait, il y a plusieurs salons où vous pouvez venir parler, ça prend 2 secondes de s'inscrire, et vous pouvez donc venir parler des sujets dont on parle dans le podcast, c'est-à-dire badminton international, top 12, les compétitions jeunes, et en fait c'est une messagerie quasi instantanée, donc c'est un peu cool de se retrouver à plusieurs, pour l'instant c'est pas encore arrivé puisque c'est très récent, mais je pense au All England à venir par exemple, si vous voulez venir parler du match en cours avec d'autres amoureux de bad, mais que vous en avez pas là, le Discord peut être très utile, voir un peu la vie des autres. Pour l'instant ça, Benoît, je trouve qu'on a eu plus d'inscrits que ce que je pensais direct.
Ah bah oui.
Pour l'instant, on en a juste parlé sur les réseaux sociaux. Et je suis très content des premiers débats et des premiers jours.
Oui, oui, on est plus d'une trentaine, je crois. Bon, toi et moi compris. Mais clairement, on s'attendait à rien. Le but, c'est nous qui l'avons créé. Mais le but, c'est vraiment de... je pense qu'on peut le dire, mais c'est créer une communauté de passionnés, en fait. Au-delà du fait que ce soit 21 Shuttle qui l'ait créé, on n'a pas vocation à être... à être mis en avant, enfin je veux dire, c'est pas le but, c'est juste de parler de bad ensemble, quoi.
Voilà, exactement. Mais on reste malgré tout présent et ça peut servir aussi à faire des retours sur les épisodes. Si vous voulez communiquer avec nous plus facilement, ça peut être un bon moyen. Comment on fait pour rejoindre ? Eh ben, vous cliquez sur le lien qu'on mettra dans la description de l'épisode. C'est très facile. Mais attention, que cela ne vous empêche pas de nous adresser, vous le faisiez déjà, pour la plupart, des messages sur les réseaux sociaux, des commentaires sur YouTube, il nous faut du trafic quand même, hein. des messages sur Messenger, etc., etc., ça nous fait toujours autant plaisir, et le Discord n'a pas du tout vocation à remplacer ça, mais plutôt à compléter. Voilà, j'ai tout dit, merci Benoît d'avoir participé à cet épisode.
Merci à toi Ewan, et merci à vous pour votre écoute.
Donc, on se retrouve le lundi 6 mars pour une interview de Mathieu Thomas, joueur parabad français. Derrière, ce sera le German Open et ensuite le All England, tournoi centenaire, peut-être pas centenaire, mais en tout cas le plus vieux tournoi de bad qui va encore nous régaler cette année. Personnellement, j'ai très hâte. Merci de nous écouter. Portez-vous bien. À la prochaine.
绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。你是否在倾听这平凡的